vos Bibles dans Acte 16, parce que je vous l'ai dit, on a lu Jean 16 pour faire vraiment une continuité par rapport à Jean 14, 15 et 16 qu'on a lu consécutivement les derniers dimanches sur le ministère du Saint-Esprit. Mais là, j'aimerais qu'on lise les 10 premiers chapitres de ce, les 10 premiers versets de ce chapitre. Dans Acte 16, où est-ce qu'on voit quelque chose de particulier sur lequel j'aimerais attirer votre attention pour notre message. Donc, on va lire ensemble, je vais prier, puis ensuite, je vais vous partager des vérités précieuses sur Christ, notre direction dans la victoire. C'est le titre du message. Alors, nous avons ici dans Acte 16, au verset 1, « Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit, et à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversa la Phrygie, et le pays de Galatie. Arrivé près de Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, on te remercie de ce qu'on a ce temps. Où est-ce que vraiment on veut te donner toute la place, Seigneur? On veut que nos pensées soient complètement captives à toi, Seigneur. On veut cette pensée de Christ qui anime chacun de nous, tes enfants, qu'elle prenne toute la place, Seigneur. Amène toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. On vient s'appuyer sur toi, notre sagesse. Et on te remercie, Seigneur, de ce que c'est ta parole vivante, efficace qu'on a entre les mains. Je suis confiant, Seigneur, que c'est le matériau dont tu vas te servir pour accomplir tes desseins bienfaisants dans la vie de chacun ici. Merci aussi que tu es personnel, que tu parles à chacun ici, Esprit du Dieu vivant, et que même tu attires à toi les perdus. Seigneur, que chacun qui ne te connaît pas ici puisse venir à la connaissance de Jésus-Christ. Et Seigneur, on s'en remet à toi, on te prie parce qu'on a tellement besoin que toi tu fasses ton œuvre comme juste toi peux la faire. Que ta volonté se fasse. Merci pour ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Alors, Christ, notre direction dans la victoire. Vous savez, c'est un passage bien intéressant, Acte 16, et ce que j'aimerais souligner, c'est que c'est bien intéressant à la lumière de la volonté de Dieu, parce qu'on voit dans ce passage-là qu'on vient de lire différentes illustrations ou différents aspects, si vous voulez, de comment Dieu dirige dans sa volonté. Hein, n'est-ce pas une question qu'on se pose? Même j'en parlais avec un frère cette semaine. C'est quoi la volonté de Dieu? Il y a un principe général que lorsqu'on on est un enfant de Dieu, qu'on demeure en lui, il nous dirige dans toute sa volonté. Mais là, des fois, on dit, oui, mais là, tu sais, moi, j'ai telle décision, j'ai tel choix devant moi, je ne sais pas aller à gauche ou à droite. Donc, dans le verset 3, on peut voir, par exemple, ça dit que Paul voulut l'amener avec lui, puis il a pris la décision de faire ce concert Timothée à cause de toute la question des Juifs. Donc, est-ce que Dieu dirige à travers nos décisions comme ça? Est-ce que lui, Paul, qui voulait, puis il dit dans 2 Corinthiens, qu'il voulait se faire tout à tous pour ne pas être une occasion de chute pour les Juifs, il s'est assuré que Timothée n'allait pas être un obstacle à l'Évangile. Moi, je crois que c'est dans ce sens-là qu'il a pris cette décision-là. Est-ce que Dieu nous dirige comme ça, à travers des principes comme ça qu'il va mettre dans nos cœurs pour diriger nos décisions par le renouvellement de l'intelligence, hein, en cherchant à faire ce qui est la volonté de Dieu? Alors, on a un principe dans ce sens-là qui peut diriger pour nos décisions. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. tous mes permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Puis aussi, tous mes permis, ouais, en tout cas, n'édifie pas. Hein? Pourquoi je me mêle avec le début? L'as-tu écrit celle-là? Non, je le connais par cœur. Mais je le connaissais par cœur, faut croire. C'est ça. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Donc, c'est un aspect. Regardez aussi au verset 4. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Ah, OK, nos décisions, peut-être aussi ceux au-dessus de nous autres, les gens en autorité au-dessus de nous autres. Est-ce que le Seigneur dirige aussi à travers ça? Notre soumission aux autorités spirituelles que Dieu a mis dans notre vie. Regardons aussi versets 6 et 7. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Puis aussi regardez au verset 7. L'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Est-ce que c'est par la soumission directement à Dieu, le Saint-Esprit, qui nous dirige dans ses voies? Ou même au verset 9 et 10, on voit une vision. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Et là, un Macédonien lui apparut, puis c'est le fameux appel macédonien. Donc, comment Dieu nous parle? Comment il nous dirige dans sa volonté? N'est-ce pas qu'on voit avec ça, il y a pas mal de possibilités. Est-ce que c'est toutes ses réponses? Est-ce que, en fait, le message va répondre à ces questions? Mais ce que je veux souligner en partant, c'est que la direction de Dieu en tant que tel, et son comment Dieu nous dirige, savez-vous, c'est même pas une fin en tant que telle, c'est Dieu qui est la fin. La question, c'est de trouver Dieu. La question, hey, c'est quoi que je vais faire? Non, c'est où je vais trouver Dieu dans ce que je suis en train de vivre. Ça, c'est sa volonté. C'est qu'on le trouve lui. Donc, au lieu de se casser la tête, ah, est-ce que je dois faire ci ou faire ça? C'est plutôt chercher Dieu là où il nous a placés, là où est-ce qu'il nous dirige. Et quand on a Dieu et qu'on est en marche avec lui, il nous dirige dans toute sa volonté. Et bien sûr, la volonté de Dieu est un moyen par lequel on apprend à le connaître de plus en plus, de façon relationnelle. Et c'est comme ça que Christ est notre direction dans la victoire. Et je n'ai pas dit vers la victoire, mais dans la victoire. Pourquoi? Parce que, on l'a vu tantôt, Christ a déjà vaincu le monde. On est déjà plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. On a déjà cette victoire. La question, c'est de marcher dedans. C'est pas essayer de l'atteindre comme si elle était inatteignable. C'est de la prendre, celle qui est déjà acquise à la croix et que Christ nous donne pleinement dans son amour à nous qui sommes ses enfants. Alors, j'aimerais qu'on considère aujourd'hui, on va parler de la volonté de Dieu. Trois questions essentielles pour répondre à la fameuse question, comment Christ peut être ma direction dans la victoire? D'abord, on doit se poser la première question, est-ce que le Saint-Esprit nous dirige individuellement dans la volonté de Dieu? Certains disent, ah, il faut s'en remettre à d'autres, ou tout ça, ou à des autorités ecclésiastiques, ou tout ça. Mais regardez, je vais vous donner ça, c'est le point le plus court du message, c'est très facile d'y répondre, sans équivoque, on a la réponse. D'abord, Jésus lui-même nous parle de la direction de son esprit dans nos vies lorsqu'il dit mais quand on vous livrera, ici Jésus parle de la persécution, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez, ni ce que vous direz, de ce que vous aurez à dire, ce que vous aurez à dire sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Un autre verset dans le même sens dans Luc 12. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Donc, le Saint-Esprit nous dit, Jésus lui-même a dit que le Saint-Esprit allait nous diriger. On va voir plus tard, évidemment, il nous dirige toujours dans la vérité, toujours selon la parole de Dieu. Dans le livre des Actes, on voit ça. C'est le Saint-Esprit qui a dit à Philippe d'aller vers l'Eunuque. C'est le Saint-Esprit qui a dit à Pierre d'aller vers Corneille et ceux qui étaient avec eux dans sa maison, avec lui dans sa maison. C'est le Saint-Esprit qui a dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». C'est aussi lui, comme on le voit ici, qui dirigeait lorsqu'il était parti en mission. « Allez là, allez pas là, il ouvrait des portes, il enfermait d'autres. » Pourquoi? Parce que c'est le maître de la moisson. On a appris ça déjà, que le Saint-Esprit est le maître de la moisson. Dans les Épîtres aussi, on apprend que le Saint-Esprit nous dirige personnellement. On voit, par exemple, dans Romains 8-14, on peut lire « Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Donc, c'est un trait des enfants de Dieu, sont conduits par l'Esprit de Dieu. Galates 5-18, « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Et Éphésiens 1-17, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Donc, c'est clair, la réponse du Nouveau Testament, est-ce que Dieu nous dirige individuellement dans sa volonté? Oui. Parce que on peut aussi aller par comparaison, si Satan a réussi à diriger Ananias et Saphira dans sa volonté, dans Acte 5, pensez-vous que si l'ennemi est capable de le faire, pensez-vous pas que c'est une contrefaçon? On va voir ça à la fin du message, du fait que Dieu dirige personnellement ses enfants. Et oui, Dieu dirige ses enfants dans sa volonté. Mais la question qui subsiste, parce que ok, la première question c'était ça, est-ce que le Saint-Esprit nous dirige individuellement? Oui. La deuxième, c'est comment? Parce que la Bible nous dit, dans 1 Jean chapitre 4, verset 1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Ah, il y a de la tromperie, il faut distinguer, ça se complique un peu. La réponse est dans la parole. La parole, on l'a vu, hein? La parole est objective, elle ne change pas. C'est la colonne et l'appui de la vérité sur laquelle on peut toujours s'appuyer pour marcher dans les voies de Dieu. Et elle va déterminer si justement, de façon authentique, on marche selon la direction subjective du Saint-Esprit. Je l'ai dit la semaine dernière, des fois le Saint-Esprit nous dirige dans des choses qui ne sont pas clairement dans la Bible. Ceux qui se sont mariés ici, il n'y avait pas le nom de votre époux ou votre épouse dans la Bible. Il y avait des principes bibliques. T'as dit qu'un chrétien se marie avec une chrétienne, puis bon, il y a des principes bibliques, mais pour la personne en tant que telle, dis, mettons, on met un éventail de possibilités, bien là, laquelle c'est la direction intuitive de l'esprit qui, selon la direction générale de la parole, va nous amener à marcher dans la volonté de Dieu. Donc, pour répondre plus en détail à cette question, comment le Saint-Esprit dirige? Il y a deux fondements bibliques qu'il faut comprendre. Okay? Là, d'abord, on a établi, le Saint-Esprit nous dirige personnellement. Maintenant, comment il le fait? Deux choses fondamentales. D'abord, la sagesse du Saint-Esprit. Ça, c'est comment le Saint-Esprit s'adresse à notre pensée. Okay? On est transformé par le renouvellement de notre intelligence. On a la pensée de Christ. Donc ça, c'est quoi ça veut dire? La sagesse du Saint-Esprit, ça implique simplement cette doctrine qu'on appelle l'illumination de la parole. Le Saint-Esprit va illuminer la parole. Il va jeter sa lumière. Et ça, là-dessus, c'est Paul qui priait pour les Éphésiens qui étaient une église qui allait bien, qui grandissait, il y avait de l'amour pour tous les saints et tout ça. Et il grandissait dans la foi et tout. Et Paul prie pour cette église qui va bien pour que Dieu leur ouvre les yeux. Les yeux de leur intelligence pour qu'ils voient tout ce qui est rattaché à leur appel, à leur si grand salut. C'est pas parce qu'ils étaient ignorants, c'est pas parce qu'ils marchaient pas déjà avec Dieu, c'est parce que Paul comprenait que Dieu dirige comme ça avec la sagesse du Saint-Esprit pour amener la lumière du Saint-Esprit sur la parole de Dieu. Et donc, on pourrait le dire, c'est quand le Saint-Esprit nous fait voir des vérités. Ils sont là, mais il les fait voir. Et ceux qui sont ici depuis un bout de temps, vous savez, j'en parlais tantôt avec Sylvie, il y a des vérités des fois qu'on peut avoir entendu pendant des années, mais qu'on les voyait pas vraiment. Ici, ça fait quand même pas mal, je dirais que dans les deux dernières années, une grande vérité qui est sortie, c'est notre union avec Christ. Non seulement Christ est mort pour nous, mais on est mort avec lui. Non seulement il est ressuscité, mais on marche en nouveauté de vie en lui. On est unis en Christ dans sa mort, sa résurrection. C'est plus nous qui vit, c'est Christ qui vit en nous. Je peux tout vous dire les versets, mais c'est le Saint-Esprit qui a amené un déclic, comme avec le salut. On fait le déclic pour être sauvé, mais de la même manière, dans cette vie de Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est le Saint-Esprit qui nous fait voir ça. Ça ne s'explique pas humainement. Maintenant, quelqu'un me disait, c'est drôle, je ne sais pas comment le décrire, mais c'est beau, c'est léger, c'est libre. On va parler de ça un peu tantôt en détail, justement, quand le Saint-Esprit est là, qu'est-ce que ça donne? Donc, c'est ça, la sagesse du Saint-Esprit. Il s'adresse à notre pensée. Il y a des choses qu'on ne comprend plus de la même manière, ou pour prendre une autre expression, on est renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Ou, pour le dire encore, vous connaissez probablement psaume 119-18, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » C'est pas juste un livre qu'on lit de même. Hein, Yves, l'autre jour, il nous partageait ça. « Waouh, le Seigneur m'a ouvert les yeux sur un passage de la parole. » Passage qu'on pourrait dire obscur, mais il n'y a pas de passage obscur parce que le Seigneur lui-même jette sa lumière. Donc, il n'y a plus d'obscurité. C'est la lumière du Saint-Esprit sur sa parole. Et ça, vous savez, ça nous dit, Paul dit à Timothée qu'il doit se nourrir des paroles de la foi. Et la foi se nourrit de la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi c'est tellement fondamental. Si on veut que l'Esprit nous parle, nous dirige, il faut qu'on plonge nos regards dans la parole de vérité. La parole vivante. Parce que c'est elle qui juge des sentiments et des pensées du cœur. C'est elle qui va trancher et dire « ça c'est de toi, ça c'est de moi ». C'est elle qui va faire la différence entre les deux. Des fois, on peut être plein de bonnes idées, plein de bonnes volontés, mais c'est notre volonté. C'est pas celle de Dieu. OK? Donc ça, c'est la première chose. Le Saint-Esprit, comment il nous dirige? Il nous dirige en nous donnant sa sagesse. Puis sa sagesse, c'est à travers l'illumination de sa parole. Maintenant, le deuxième fondement sur comment le Saint-Esprit nous dirige, non seulement par la sagesse du Saint-Esprit, mais par le témoignage du Saint-Esprit. Ça, c'est comment l'Esprit s'adresse à notre esprit. Vous connaissez Romains 8, 16? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire, c'est quoi la différence? Et là, c'est notre pensée, c'est comment... que. Puis l'autre, c'est notre côté spirituel, ça dépasse même les mots. Tu sais, je peux vous dire, ah, t'es un enfant de Dieu, mais quand l'Esprit en rend témoignage, ça dit que nous sommes enfants de Dieu, c'est plus que juste un sentiment, c'est plus que juste une simple pensée, c'est une connaissance, une conviction, c'est le Saint-Esprit lui-même qui nous dit, t'es mon enfant. Maintenant, il y a trois choses importantes à connaître par rapport à ça, et je pense que ça va vous bénir d'apprendre ces choses-là sur le témoignage du Saint-Esprit. Mais d'abord, le Saint-Esprit là, nous dirige toujours dans la lumière. Pourquoi? Parce que Dieu est lumière. On apprend dans 1 Jean que la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Donc, le Saint-Esprit, Dieu lui-même, nous dirige dans la lumière. C'est clair. C'est pas ténébreux et confus. Donc, quand Dieu nous dirige, il y a la lumière. Aussi, on apprend dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, ça nous dit, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Le témoignage du Saint-Esprit, non seulement nous amène la lumière, là où il y a des ténèbres, mais il nous amène la vie, là où il y a la mort. C'est-à-dire, c'est plus la séparation, la mort, ça veut dire la séparation. C'est comme quand on meurt, notre corps se sépare de notre esprit, mais... L'esprit de vie, au contraire, lui, il amène, il réunit. Là où il y avait de la mort, de la séparation, il amène sa vie. Donc, la lumière, la vie, et qu'est-ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, 17? Savez-vous c'est quoi ça dit dans... Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Bon verset sur la divinité du Saint-Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Lumière, vie, liberté. Le Saint-Esprit ne va pas nous rendre esclaves. Il ne va pas faire les choses que nous forcer contre notre gré. On a la vraie liberté. Puis là, je vais vous donner juste une petite illustration. Ça peut paraître un peu simple, mais tant mieux quand c'est simple. Tu sais, moi, je prépare des messages. Ça fait partie de ce que je fais à toutes les semaines. Merci de prier là-dessus, parce que comme j'avais dit à un moment donné, c'est pas comme mon père sur un piton. Puis là, il y a un message qui sort, tu sais. Non, je veux dire, il faut prier, ça prend la direction justement du Seigneur. Mais si en préparant mon message, c'est laborieux, c'est pas clair, puis je suis tout Pogné. C'est lourd, savez-vous quoi? Ça va être lourd pour vous autres aussi. Non, mais c'est vrai. Mais si, à cause du ministère du Saint-Esprit dans ma vie, ces vérités-là de la parole prennent vie dans pour moi-même, puis que Dieu, comme on dit, il met de la viande, de la chair autour de l'os, puis qu'il y a un sens d'actualité, on sait que la Bible, ça fait longtemps que ça a été écrit, mais elle est toujours actuelle. S'il y a tout ça dans ma préparation, et que justement, j'ai ce sens que le Saint-Esprit amène la lumière, la vie et la liberté, ben vous allez en bénéficier avec le surplus de ça, l'overflow de cette bénédiction de mon cœur. C'est ça la prédication selon la parole, c'est ce que ça doit être. Si c'est rendu juste une chose là, où est-ce que, ah là, je vous dis des choses là, on fait... Et on passe à côté de l'essentiel. Parce que la parole est vivante et elle transmet la vie. Et elle doit nous redonner l'espoir là où on l'a perdu. Je veux dire, c'est un ministère fondamental. Maintenant, on peut dire, pour simplifier les choses, là, parce qu'on se pose toujours la question, comment le Saint-Esprit dirige, là? Comment savoir? Ben, le saut, là, c'est quand le Saint-Esprit dirige, il nous dirige dans la lumière, dans la vie, puis dans la liberté. Et ça, je dirais que c'est le saut, c'est la marque de la direction du Saint-Esprit. Ça va être un remontant pour notre cœur, ça va être une édification pour les autres. Ça va être une édification, on va être édifié soi-même, mais aussi... on va édifier les autres. Et c'est comme ça qu'on peut savoir que le Seigneur nous dirige. La lumière, la vie, la liberté. Et n'est-ce pas que Jésus l'a dit lui-même, et il l'a dit dans les évangiles, il l'a aussi dit dans l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit, il s'adresse à nous, il est personnel, et il nous dirige dans toute la vérité, et la parole est la vérité. Donc, c'est clair, on a simplement à être à l'écoute de ce que lui a à nous transmettre. Maintenant, ça m'amène à une troisième question, tellement importante. Parce que c'est beau savoir comment il dirige, mais comment discerner la contrefaçon dans la direction spirituelle? On l'a vu tantôt, il ne faut pas ajouter foi à tout esprit. Comment discerner la contrefaçon dans la direction spirituelle? Parce qu'on dit, on sait que Satan se déguise en ange de lumière. Et nous n'ignorons pas ses desseins. Alors voici, là, je vais vous donner en rafale là, la différence entre comment le Saint-Esprit dirige versus la contrefaçon. OK? Ceux qui prennent des notes, ça va peut-être aller un peu vite, mais au pire, vous écouterez le message pour réviser, mais je vais essayer d'y aller lentement, au moins pour vous donner les points. L'Esprit dirige... Puis là, on va dire, bon, les esprits malins ou notre chair, là, OK? Je vais dire la contrefaçon, mais vous pouvez, OK? L'esprit dirige, la contrefaçon pousse. OK, par exemple, Élie, on sait que lorsque Dieu lui a parlé, il y a eu un feu, il y a eu un tremblement de terre, puis comment Dieu s'est adressé à lui? Un murmure doux et léger. OK? Il le dirigeait comme ça. Alors qu'au contraire, on voit des fois des actions d'éclat qui font bien du bruit, mais qui poussent dans la mauvaise direction. Par exemple, on apprend dans Deutéronome que, ici c'est Moïse qui relate quand ils n'ont pas été dans la terre promise, puis là il y avait des remords, puis là, le peuple, qu'est-ce qu'il a dit? Nous avons péché contre l'Éternel. Nous montrons et nous combattrons comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'a ordonné. Et vous saignez chacun vos armes et vous faites des projets téméraires de monter à la montagne. L'Éternel me dit, dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas mieux de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Je vous parlais et vous n'écoutâtes point. Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel et vous montâtes audacieusement. À la montagne. Ça fait drôle de lire des choses au passé simple de même. Dans Deutéronome, ils font ça, c'est drôle. Et donc, voyez-vous, il y avait une contrainte. Ou même quand ça dit, bon, à un moment donné, dans Deutéronome aussi, là, à un moment donné, ça dit, si quelqu'un d'entre tes frères, tes soeurs, des gens proches, viens, on va aller vers d'autres dieux, vers des idoles. Il y a une contrainte poussée à faire les choses, alors que le Saint-Esprit nous dirige tout simplement comme un murmure doux et léger. Et un peu dans ce sens-là aussi, c'est la différence entre être rempli du Saint-Esprit, puis quand on regarde justement des gens qui sont possédés par un mauvais esprit, c'est jour pour la nuit. Il y en a un qui est dirigé et l'autre est, agit contre son gré. L'Esprit nous dirige dans toute la vérité. Et les mauvais esprits, l'influence de la chair nous pousse dans le mensonge, la violence et toutes sortes de choses mauvaises. Donc, c'est une première chose. Deuxième façon de savoir comment discerner l'authentique de la contrefaçon, l'esprit donne la paix, la contrefaçon agite et trouble. Comparer le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la paix, la joie et tout le kit, aussi, quand ça dit que la paix règne dans vos cœurs, dans Colossiens, comparez ça au désordre et à la confusion de suivre sa propre chair, de suivre ses propres penchants, de marcher selon le train de ce monde. C'est assez clair comme point. L'Esprit nous donne la paix. La contrefaçon nous agite et nous trouble. La direction du Saint-Esprit résulte dans la lumière sur notre chemin, la vie, la liberté de la paix de Dieu, tandis que la contrefaçon est orientée souvent vers les sentiments, c'est vacillant, puis il n'y a pas de paix. Ça produit du désordre, de la confusion à ce sujet-là. Regardez, dans Jean, ça parle d'un zèle amer, d'un esprit de dispute, puis ça dit que là où il y a ça, il y a toutes sortes de désordres, puis de méchanceté. Donc, c'est une autre façon de savoir l'authentique de la contrefaçon. Troisième façon, l'esprit communique à l'homme intérieur. La contrefaçon influence l'homme extérieur. J'explique. On l'a vu tantôt, l'esprit rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit témoigne à notre être le plus profond, le plus intime, d'esprit à esprit. Mais les mauvaises influences spirituelles s'exercent par une influence extérieure de la société, de nos pères, de toutes sortes de peurs. N'est-ce pas que depuis 2 ans, on entend toutes sortes de bébelles, puis c'est comme une pression extérieure. Et donc, c'est vraiment une différence. Des gens disent entendre des voix audibles, des manifestations physiques. C'est très évident que c'est de la contrefaçon parce que l'esprit fonctionne de façon... non perceptible. Je parlais d'Élisée avec le murmure doux et léger, mais aussi penser encore à Élisée avec son serviteur qui voyait tous les chariots de feu. C'était pas visible à l'œil nu. Il a fallu qu'il prie, que Dieu ouvre les yeux à son serviteur parce que lui, il le voyait pas. Georges Muller, qu'on dit, hey, wow, quel homme de foi, il a dit, regardez-moi pas comme quelqu'un de spécial, je fais juste écouter ce que Dieu me dit de faire, prier pour les personnes qui me disent de prier, puis je persévère jusqu'à temps que j'ai la réponse. Il n'entendait pas des voix. Mais il y avait cette voix inaudible sur murmure doux et léger. Dieu, il mettait des fardeaux, il dirigeait à travers les différentes façons que Dieu est capable de faire ça pour avancer, où est-ce que Dieu l'amenait à avancer. Donc, c'est pas qu'il entendait des voix audibles, sinon les gens l'auraient entendu autour de lui, mais il entendait la voix de Dieu. Dieu, il parlait, il mettait des choses à cœur. Vous connaissez l'histoire, il y a 5 personnes qui avaient clairement à cœur de prier pour. Il y en a qui ont été sauvés peu de temps après qu'ils prient. Il y en a qui ont été sauvés plus de temps après, vers la fin de sa vie. Puis les 2 derniers ont été sauvés, mais après sa mort. Mais il a prié toute sa vie pour ces 5 personnes-là parce qu'il était convaincu que Dieu voulait qu'ils prient pour leur salut. Voyez-vous? Une autre façon de distinguer l'authentique de la contrefaçon, l'esprit dirige par la coopération active. La contrefaçon profite de notre passivité. N'est-ce pas que ça dit dans la Bible qu'il faut marcher par l'Esprit? Ça dit, n'éteignez pas l'Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ça l'exige notre coopération active. On n'est pas juste là à s'asseoir et à rien faire. Ça l'exige la coopération de la foi. Le juste vivra par la foi. Il faut qu'on fasse confiance à Dieu, il faut qu'on décide de se confier dans l'Éternel. Mais la passivité de notre pensée, de notre volonté, c'est un terrain fertile pour l'ennemi. Bon, puis là, tu sais, évidemment, l'hypnose, les drogues, c'est des façons très évidentes, là. Mais la passivité, la paresse spirituelle à être là, puis tu sais, rien vraiment s'attendre à rien, puis rien entreprendre, pas chercher Dieu, c'est une bonne façon par laquelle l'ennemi va bypasser, va passer outre la direction de Dieu pour nous égarer. En fait, le principe, c'est comme ça qu'on va donner accès à Satan. Lorsqu'on lui donne un peu de place, il va tirer pour en avoir encore plus. Une façon souvent que ça arrive, c'est quand on nourrit, qu'on flatte la chair dans ses convoitises. Ça l'ouvre la porte à notre propre chair, à Satan, à la convoitise du monde, de nous égarer. C'est pour ça que c'est un grand danger pour un chrétien d'être dans la passivité, parce qu'il ouvre la porte toute grande à l'influence qui va l'égarer des voies de Dieu. Et qui n'est pas en train de prendre la provision, la sortie que le Seigneur a pour lui. Donc faites attention, lorsque vous n'êtes pas en... Tu sais, des fois, on a des hauts et des bas dans la vie chrétienne, là, ça ne va pas toujours bien. Faites attention quand vous êtes dans un, mettons, un bout plus dur de votre vie chrétienne, de dire « Ah, Dieu me dirige à ci puis à ça ». Attention, parce que souvent, c'est dans ces moments-là de passivité puis de laisser aller qu'on peut justement s'égarer et qu'on peut prendre les mauvaises décisions. Pourquoi? Parce qu'on passe outre le processus normal par lequel Dieu fonctionne, c'est-à-dire le juste vivra par la foi. Il va avoir, lorsque Dieu nous dirige, il y a cette foi active qui ajoute foi à ce que Dieu dit et qui embarque dans ce que Dieu est en train de faire. Maintenant, une autre chose qu'il faut comprendre, cinquième, l'esprit dirige en parfaite harmonie avec la parole, la contrefaçon use de détours. Ça, c'est assez clair. L'esprit dirige jamais un texte hors contexte ou tiré par les cheveux que tu ne peux pas trop avoir de référence parallèle pour l'appuyer. Non, l'esprit dirige selon la parole simplement, clairement. L'usage pernicieux de la parole, on voit ça avec Satan, avec Jésus dans le désert. Il a cité la parole. Puis ça dit aussi dans 2 Pierre que... Puis là, je vais vous le citer. Dans 2 Pierre que... Il y a certaines personnes, avec les passages difficiles à comprendre, que des personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Donc ça, c'est assez clair. Maintenant, sixième... chose à comprendre par rapport à la contrefaçon, l'esprit met Jésus au centre d'attention, la contrefaçon, l'homme soi-même. OK? N'est-ce pas que Jésus a dit lui-même, justement, dans les versets qu'on a lus dans Jean 15 et 16, dans Jean 15, 26, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, de Jésus. » Puis aussi, ça nous dit dans Jean 16, 14, « Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Donc, le Saint-Esprit amène toujours la centralité de Christ. Si on a un centre d'attention pour faire la volonté de Dieu, c'est pas bon signe, on devrait mettre un gros break, le Jacob, le break, tout le kit, le break à bras. Pourquoi? Parce que... ça peut sembler en harmonie avec la parole et ça, il peut avoir une apparence de, mais n'oublions jamais que telle voie paraît droite à un homme et son issue, c'est la mort. Par exemple, si j'ai un beau projet pour Dieu, des bonnes idées pour Dieu, mais que tout dépend de moi, de mes ressources, de mes habiletés et que ça ne nécessite pas la foi, de sortir de ma zone de confort et de souffrir pour le bien et le péché des autres, c'est pas bon signe. Parce que c'est souvent aussi la marche, si je disais que d'un côté positif, l'Esprit amène la lumière, la vie puis la liberté, mais aussi il nous sort d'une zone de confort. Il nous appelle à souffrir pour le bien puis le péché des autres, parce que c'est ce que Christ a fait puis on est appelé à marcher dans ses traces. Donc la volonté de Dieu, c'est pas toujours facile, mais c'est agréable. Septièmement, l'Esprit dirige par des convictions spécifiques. La contrefaçon est dans le flou général. La Bible est claire, on l'a vu dans Jean 16, le Saint-Esprit convainc le monde de péché, de justice, de jugement. Il n'y a pas quelqu'un, tu sais, t'es pécheur, puis peut-être que t'aurais peut-être besoin d'être sauvé. Non, quelqu'un qui pourrait être sauvé, qu'est-ce qui arrive? Il est saisi, puis wow, c'est grave, je suis pécheur, puis je suis dans le trouble avec Dieu. Faut que je sois prêt à la rencontre de mon Dieu. Tu sais, de la même façon aussi dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est pas comme « Ah, ben là, tu sais, si t'as le temps à m'amener, tu considéreras ma parole. Pis... » Non, tu sais, Dieu nous parle là, puis c'est spécifique, puis c'est avec telle chose précise, soit péché, soit une volonté précise de Dieu pour nous autres. Autrement dit, il nous donne pas des demi-vérités puis des demi-victoires. Il nous donne tout pleinement en Christ. C'est pas du à moitié. Mais ça, justement, c'est le propre de la contrefaçon. Dans le monde flou du général et du non spécifique. Pourquoi? Parce que Satan veut qu'on écoute toutes sortes d'autres voix, sauf celle de Dieu. Et ça ne dérange pas des fois, même si ça peut sonner comme Dieu, tant que c'est pas celle de Dieu, que c'est des belles apparences et tout ça. Comme je disais tantôt, si on lui donne un peu de terrain, il va prendre ça puis il va nous éloigner du Seigneur, même avec des choses qui peuvent bien paraître. Et j'ai donné ça comme exemple, c'est-tu mercredi? En tout cas, j'ai parlé de ça il n'y a pas longtemps. Des fois, par exemple, on peut, dans nos rapports avec les autres, être plein de bonnes intentions pour aider les autres. Ah, moi, je vais aider les autres, j'ai ça à cœur. Je l'ai à cœur, cette personne-là. Je veux la ramener. Avez-vous déjà posé la question, est-ce que c'est ce que Dieu veut pour moi, avec cette personne-là? Parce que il y a vraiment des bonnes intentions, puis on sait que on veut pas que les gens s'égarent, s'éloignent loin de la vérité, mais est-ce que vous êtes pensé peut-être que Dieu veut que cette personne-là sente sa misère? Puis que si vous arrivez là, puis vous pouvez empêcher l'œuvre de Dieu pour que la personne arrive au bout d'elle-même, puis qu'elle a crié à Dieu, puis que vous pouvez être dans le chemin de ce que Dieu essaie de faire. Vous avez déjà posé la question. C'est pas nous les sauveurs. Dieu peut nous utiliser dans ses mains rédemptrices, puis c'est merveilleux, puis il le fait. Mais vraiment, il faut savoir, est-ce que c'est ce que Dieu a pour moi dans cette situation? Et Dieu va nous le montrer spécifiquement. Parce qu'on dit, ah oui, Dieu veut qu'on s'aide tous les uns les autres. OK, mais as-tu demandé à Dieu? Est-ce que tu t'attends à lui? Moi, je vous dis une chose incroyable que j'ai vue en 2022, c'est que on n'a pas tout le temps la réponse à quoi faire au bon moment puis tout ça. Mais quand on s'attend à Dieu, quand on dit Dieu, moi je sais pas, mais je m'appuie sur toi, je m'appuie pas sur ma sagesse, je veux surtout pas. Mais je m'appuie sur toi. Dieu fait connaître sa volonté. Dieu nous dirige. Au bon moment, je vous dis, j'ai tellement d'exemples que je pourrais vous donner. Des situations, c'était complexe, je ne savais pas trop quoi faire. Dieu, au secours, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis je ne veux pas intervenir tant que toi, tu sais pas, tu me le montres pas, je veux rentrer dans ton travail. Je veux pas faire mon travail pour toi, je veux rentrer dans ton travail. Bien, je vous le dis, le Dieu est vivant, puis il est vrai. Là. Quand on s'attend à lui comme ça, on revient pas bredouille. Dieu dirige. Dieu, il y a une façon de faire les choses, parce que je vous dis, Dieu est vivant, puis il travaille, puis c'est pas une théorie qu'on parle, là, puis c'est pas une religion bizarre. Là. Je veux dire, quand on demande à Dieu, il nous dirige. Quand on s'attend à lui, le bout le plus dur, c'est d'attendre. Parce que là, ça nous chicote, puis il faut bien que je fasse quelque chose. Non, faut pas que Dieu n'a pas besoin de toi. Là. Si on met ça en partant, là, Dieu n'a pas besoin de nous autres. En fait, c'est un privilège, comme avec nos enfants. On lui montre des affaires, puis c'est bien plus facile souvent de le faire nous-mêmes. Mais Dieu nous donne le privilège de rentrer dans son travail. Il m'en reste deux. De toute façon, j'ai presque fini. Mais l'esprit dirige vers l'édification d'autrui. La contrefaçon décourage et accuse. N'est-ce pas que la Bible nous dit que toute parole qu'on dit doit servir à l'édification et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit sur Satan? Il est l'accusateur des frères. Mes amis, qu'on fasse attention. Quand on est rendu, quand on est dans les autres, puis dans notre ministère, que les gens au bout, après avoir passé du temps avec nous, sont découragés. Puis ils sont fait accuser à gauche, à droite, mais qui n'ont pas d'espérance. Parce qu'OK, il y a un temps pour... Il faut dénoncer le péché, puis le péché, c'est du péché, mais est-ce qu'on voit juste le péché, puis ça finit là? Ou est-ce qu'on voit, où est-ce que le péché abonde, la grâce surabonde? Est-ce qu'on voit qu'avec le problème, Christ est plus grand, puis est capable de faire de quoi avec ça? En passant, si Dieu nous utilise, pensez-vous qu'il nous doit utiliser juste pour être un prophète, de dire, « Hey, là, ça marche pas ce que tu fais, puis repens-toi. » Ou si, justement, Dieu nous utilise, il va nous utiliser pour mettre la virgule là, puis continuer la phrase pour dire, « Mais il y a de l'espoir parce que Dieu est vivant, puis parce que Christ est capable de faire, de toutes les situations, même les pires, il est capable de faire de quoi de beau. » Mes amis, c'est vraiment la différence. Il y en a un qui édifie, qui communique la grâce, la vie, puis l'autre décourage et accuse. Si les gens après être allés en contact avec vous sont tous déflaboxés, découragés, puis à terre, vous n'avez pas exercé le ministère du Saint-Esprit. Parce que même en reprenant des gens, puis il y a un temps pour le faire, là. Ben, c'est tout ce que vous faites comme ministère, il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas aussi, peut-être que vous avez une poutre à enlever de votre œil, là. Mais écoutez-moi bien, là. C'est quoi la mission du Messie que le Saint-Esprit continue à faire? Ben là, dans Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Là, c'est Jésus qui a dit ça lui-même, puis nous, on est son corps. On continue cette mission messianique que Jésus est venu accomplir sur la terre et que nous, son corps, on continue d'accomplir. Car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Si on n'a pas ce genre d'espoir-là qu'on communique aux gens autour de nous, on a beau dire qu'on... Ah, je sens que le Saint-Esprit me dirige à faire ci puis ça. Mes amis, on n'a pas fait de la job au complet. Puis on sait qu'une bonne nouvelle, ça commence avec la mauvaise nouvelle de savoir qu'on est dans le trouble avec Dieu. Mais j'espère qu'on est justement à l'écoute du Seigneur pour pas rester là. Le Seigneur est venu redresser ce qui était brisé. Le Seigneur est venu pour... restauré, il est le rédempteur. Mais le découragement, le désespoir, c'est la tactique de l'ennemi. Pour nous mettre à terre, puis décourager, puis ne voir que soi le problème et pas Dieu. Et finalement, l'esprit dirige de façon pratique. La contrefaçon, c'est ardu, puis c'est compliqué. L'esprit dirige de façon pratique. La contrefaçon, c'est ardu, c'est compliqué. Si on a à forcer les choses pour que la volonté de Dieu se passe, c'est probablement pas sa volonté. Quand c'est la volonté de Dieu, ça coule de source. Mais, là je mets une parenthèse, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance. Je vous donne un exemple bien simple, les martyrs. Puis notre sœur parlait des gens en Afghanistan. En ce moment, ça a l'air que vraiment, là, parce que vous savez, les États-Unis sont retirés de l'Afghanistan, puis que là, la persécution en Afghanistan contre les chrétiens afghans, là, parce que la majorité des autres sont partis, elle a redoublé, c'est vraiment, vraiment, il faut prier pour nos frères et sœurs de l'Afghanistan. Savez-vous quoi? C'est pas compliqué pour eux autres de faire la volonté de Dieu. C'est de laisser Christ être Seigneur puis de vivre selon la foi qui les anime. C'est pas compliqué. Mais est-ce qu'il y a un prix élevé? Absolument. OK? Et c'est ça la distinction. Ça coule de source, comme avec Shadrach, Meshach et Abednego. C'était pas compliqué, là. Je veux dire, il n'était pas question de se prosterner devant cette statue, là. OK? Mais il y avait un prix qui était grand à payer. Alors que quand c'est supposément la volonté de Dieu, mais que c'est de la contrefaçon, ah là, c'est compliqué puis c'est ardu. Merci, ma soeur, qui m'a partagé un livre, je vous le recommande, La Croix d'Hitler, par... C'est quoi le nom du gars? En tout cas, le gars qui est à Chicago, à l'église que Moody était dit, c'est quoi son nom, là? Hein? Erwin Lutzer. Erwin Lutzer. Puis ça parle là-dedans, bon, comment la Deuxième Guerre mondiale, tout ça, comment ça s'est passé en Allemagne, mais aussi tout ce qui venait avant. Puis quelque chose qui est ressorti, c'est que la majorité, c'est pas chantant, mais savez-vous quoi? La majorité des chrétiens sont embarqués avec Hitler et son régime. Puis ils s'appelaient les chrétiens allemands. Puis ils faisaient toutes sortes de gymnastiques, puis c'était ardu, mais ils avaient trouvé une façon de dire, ben oui, on fait la volonté de Dieu. C'est dur à croire pour nous en ce moment. Mais en Allemagne des années 30 et 40, c'était sur l'air du temps. C'était logique, c'était... Voyez-vous comment c'est de la tromperie? C'était compliqué, puis c'était ardu, là, parce que je vous dis, il y en a, là, des bonnes offres et d'autres, là, qui, eux autres, c'était clair, là, puis ils ont payé le prix, par exemple. Ils en sont morts, mais c'était pas compliqué. Christ est Seigneur, et non pas César. Ça règle toute la question. Et non pas César ou Hitler, là, je veux dire, mais bon. Je dis ça parce que c'est un article que j'ai lu, puis c'est ça. Hey, je termine avec juste quelque chose de bien simple ce matin. Le principe que ce message et le précédent ont illustré, c'est que la parole de Dieu nous dirige dans le domaine objectif, elle donne les paramètres, je veux dire, la parole de Dieu, c'est là, c'est clair. Puis l'Esprit nous prend la parole puis nous dirige comme ça dans le domaine subjectif. Le comment puis tout ça de cette parole dans nos vies. Et lorsque ça, on l'accepte pour nous-mêmes, qu'on y ajoute foi à ce que l'Esprit nous dirige selon la parole, ben là, on apprend à connaître Christ, notre direction dans la victoire. Et on va comme ça de progrès en progrès. Et je termine sur cette note bien simple. Vous savez que le Saint-Esprit va toujours diriger, je l'ai dit tantôt, à Jésus-Christ. Il prend ce qui est de Christ puis il le rappelle. Mais aussi, il dirige vers la croix. Si vous êtes ici, vous ne connaissez pas Jésus. Savez-vous quoi? Savez-vous c'est quoi que le Saint-Esprit a comme ministère principal? Il convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et tout ça, ça se passe à la croix. Le péché du monde a été jugé. Christ, sa justice parfaite, lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, est allé sur la croix, lui, qui ne le méritait pas. Il a subi le jugement de Dieu, sa colère, pour notre péché sur lui. Ça, c'est le Saint-Esprit qui, si vous êtes ici, vous ne le connaissez pas, Jésus comme votre sauveur, c'est lui qui vous dit, c'est pour toi. C'est la vérité. Tout est accompli. C'est pour ça que Paul, lorsque il parle dans 2 Corinthiens chapitre 2 de ce qu'il faisait et de sa mission, il dit « Quand je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » C'est le seul espoir pour ceux qui ne sont pas encore rachetés par le sang de Christ. Que ça ne fait pas de sens. La Bible nous dit que la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, je vous invite simplement à répondre à l'appel, à accepter. Humiliez-vous devant l'appel de la croix. Et pour vous qui êtes un enfant de Dieu racheté par le sang précieux de Christ, est-ce que vous pouvez me dire que, là je vais dire tu, est-ce que tu peux dire que tu connais la direction de Dieu dans ta vie? Pas la vie d'un autre qui devrait donc faire ci, puis ça irait mieux, puis... Non, non, on n'est pas d'un gérant d'estrade, là. Là, on parle pour nous, notre vie, là. Est-ce que tu connais bien la direction du Saint-Esprit dans ta vie? Pas nécessairement par une grosse décision que tu as à prendre, mais dire, oui, l'Esprit me dirige. Et ça, de ça va dépendre le degré par lequel tu vas expérimenter, tu vas jouir de cette vie qui est en Christ, et de cette victoire qui est en lui. Parce que l'Esprit, quand il est là, il nous dirige dans la victoire. Puis comment il dirige? Je répète les trois mots. Dans la lumière, on se pose toutes les questions, c'est clair, c'est pas dans les ténèbres. Dans la vie. La vie, ça produit. La vie, c'est beau. Puis dans la liberté. La liberté d'aimer, la liberté de pardonner, la liberté d'être tout ce que Dieu veut que je sois. Fait que mes amis, l'appel est là. Qu'on puisse répondre à ce que Dieu nous a communiqué ce matin. Seigneur, on te remercie de ce que tu... Non seulement tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu vrai. Il n'y a aucun... Il n'y a pas de ténèbres en toi. Et Seigneur, tu nous donnes la vraie liberté. Mais aussi, tu es personnel. Et ce matin, on a un rendez-vous divin. Si on est ici ce matin à l'église, ce n'est pas un hasard. C'est parce que tu nous veux ici et tu nous veux. Seigneur, on veut se donner en retour. Brise toute résistance. Souvent, l'insistance qu'on a sur nos plans, nos pensées, notre volonté, Seigneur, brise toutes ces choses. Amène-les captives à l'obéissance de Christ. Toute forteresse, toute hauteur qui s'élève. Puisses-tu, Seigneur, les amener à être soumises à notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, Seigneur, toi qui sauves encore quiconque s'approche de toi par la foi, tu connais les cœurs. Si quelqu'un ne te connaît pas encore, Seigneur, que dans la simplicité de la foi puisse venir à Christ, à la croix du calvaire, la croix qui reste debout, à Jésus qui sauve encore, parce qu'il est vivant. Seigneur, on s'en remet en tes mains. Que ta volonté se fasse au nom de Jésus. Amen.